tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Reprenez en marquant les premiers temps.
Mars en baroque résonne sur les ondes de Radio Grenouille. Pendant toute la durée du festival, programmation musicale, playlist choisie et commentée par des artistes du festival le dimanche à midi. À partir du jeudi 13 mars, tous les jours à 11h, conversation avec Jean-Marc M, directeur de Concerto Soave, pour saisir quelques clés du baroque. Mars en baroque sur Radio Grenouille, un programme à retrouver sur le www.radiogrenouille.com.
Vous reprenez au début.
Vous écoutez les clés du baroque sur Radio Grenouille. Bonjour Jean-Marc Haim.
Bonjour.
Aujourd'hui, on a choisi d'aborder un thème qui est celui de la place de la voix et de la naissance de l'opéra pendant cette période dite baroque, Jean-Marc. Et je vous propose de commencer avec un extrait que je vous propose à l'écoute et on en parle juste après.
Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
Si caractéristique et assez unique de Screamin' Jay Hawkins, qui était aussi une sorte de personnage assez burlesque entre le vampire, sorcier vaudou et chanteur de cabaret rhythm and blues. Un certain grain de voix, Jean-Marc, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est extraordinaire ça.
Alors, est-ce qu'on est là, on n'est pas loin du... Est-ce qu'on est dans le parlar cantando ou dans le bel canto?
Là, on est ouf, on est à la limite parce que on est en tout cas dans l'impact que peut avoir la voix. Là, Screamin' Jay Hawkins, mais il crie en fait, il va jusqu'au cri pour exprimer ce que fera d'ailleurs l'opéra moderne. D'ailleurs, on peut aller jusqu'au cri pour évoquer certains sentiments exacerbés. Donc, on est tout à fait dans l'esthétique de l'opéra en fait.
Alors je disais parlar cantando, bel canto, puisque c'est un passage qui va s'opérer pendant un petit peu la période classique entre une manière de chanter qui se rapproche peut-être de la manière parlée d'abord plutôt et ensuite vers donc le bel canto, tout le monde comprend ce que ça veut dire, où la voix, le chant est dans sa beauté, sa joliesse est vraiment mise en avant.
Oui, en fait, il faut replacer un petit peu les choses dans leur contexte historique, c'est-à-dire que à la fin du XVIe siècle, tout début du XVIIe siècle, dans les cours à Florence, on a imaginé de retrouver la puissance du théâtre grec, du théâtre antique. Et on savait que le théâtre grec était déclamé d'une manière presque vocale. Il était chanté. Donc, on a essayé de retrouver ça. et en mettant en musique des textes, et pour leur donner cette puissance que, qu'amène en plus le chant. Donc on a pris des textes, des histoires antiques, on, des poètes contemporains donc de la fin du 16e, début du 17e, ont écrit des livrets, des poésies, et des compositeurs les ont mis en musique. Après, il s'est passé un phénomène, c'est que c'est quelque chose qui a eu énormément de succès. Alors, il faut voir que c'était quelque chose qui était réservé à une élite à l'époque, à des cours. Et ça a eu tellement de succès qu'on s'est dit, ben, on va essayer de l'ouvrir aux gens du peuple, à tout le monde. Donc on a commencé, particulièrement à Venise, à ouvrir des théâtres, des théâtres, des maisons d'opéra dans lesquelles le public pouvait venir. Et là, ça a pris vraiment très très bien, et les gens payaient pour voir. En plus, c'était une entreprise commerciale, donc c'était pas plus mal. Et on a commencé à composer des opéras. Mais de plus en plus, comme c'était un public et quand même un public qui était plus large, donc qui n'était pas forcément aussi cultivé, qui connaissait pas forcément aussi bien l'histoire antique, les intrigues des dieux, des demi-dieux, des machins, l'intérêt s'est plus focalisé finalement sur la performance des chanteurs, qui étaient au début presque des acteurs plutôt que des chanteurs, mais de plus en plus on s'est attaché à la voix,
à la performance
vocale, à la beauté de la voix, etc. Et là il y a vraiment l'opéra tel qu'on le pratique encore aujourd'hui qui est vraiment né, et s'est élaboré des techniques de chant pour que la voix puisse vraiment donner toute sa force, etc. Les techniques de bel canto, et là la voix est passée au premier plan par rapport au livret.
Ça se passe à Venise au milieu du XVIIe siècle environ, cette popularisation de l'opéra. À quelle période correspond l'extrait de la composition d'India que nous allons écouter, Jean-Marc?
Alors là, on est au tout début, en fait. Au tout début, c'est pas vraiment un opéra, c'est une pièce vocale, mais qui pourrait très très bien s'insérer dans un opéra. C'est un lamento de Didon. Donc c'est Didon qui est abandonné, encore une femme abandonnée, par Énée à Carthage. Et là, on est au tout début, donc, si je dis Mandodine, il y a contemporain de Monteverdi, au tout début du XVIIe siècle, donc les débuts de cet art.
Un court extrait de Salamento de Didon, donc composé, enfin où la musique est composée par Dindia, Sigismondo Dindia, Jean-Marc Heim. On va écouter ensuite un extrait de Orlando, un opéra de Handel. Et là, c'est une toute autre période quant à la forme opératique.
Oui, on est toujours pourtant dans l'époque baroque, c'est-à-dire que les moyens sont les mêmes, c'est-à-dire une voix avec le soutien dont je parlais dans une émission précédente qui est la basse continue, accompagnée, là vous aviez la voix juste avec les instruments de basse continue, la harpe, le clavecin, etc. Et là vous allez avoir la voix avec un orchestre carrément, même s'il y a aussi le clavecin qui fait la basse continue. Et là on est à l'opposé, c'est-à-dire qu'on est un siècle après, et autant dans la pièce de Dind, vous aviez un long texte qui est mis en musique, mais donc la pièce musicale dure ce que dure le texte. Et là, vous avez à voir, y a trois mots, j'allais dire, hein. Y a peut-être quatre vers, mais une pièce qui va durer 4 minutes. Rien qu'avec 4 vers, Handel va faire un air de 4 minutes. Et alors, vous allez voir toute la technique qui a évolué, c'est-à-dire les mots sont répétés énormément, on fait beaucoup de vocalises, beaucoup d'ornements. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de la musique baroque, l'ornementation, en fait, que ce soit pour les instruments ou la voix. Et tout l'accent est mis sur la virtuosité vocale.
Avec cette popularisation de l'opéra, apparaissent donc aussi non seulement des formes de chants différents, mais aussi des chanteurs qui commencent à acquérir des réputations auprès du grand public. Et certains de ces chanteurs, particulièrement les castrats, deviendront d'ailleurs un petit peu des stars pour leur époque, Jean-Marc.
Ah oui, des très 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 grandes stars, évidemment. Alors, justement, l'air qu'on vient d'entendre, qui était chanté par Patricia Bardon, donc par une mezzo-soprano féminine, accompagnée par les arts florissants. Là, on est à mille lieues, évidemment, de ce qu'on a entendu précédemment avec Maria Christina Kir. Donc, c'est un rôle qui était tenu, le rôle d'Orlando dans cet opéra de Handel, par un castrat. Donc ces castrats qui avaient un registre très très grand, puisqu'ils descendaient très grave, enfin relativement grave, et ils montaient avec une aisance assez confondante. La pratique de la castration date était plus ancienne, évidemment, puisque à la chapelle papale, par exemple, vous aviez des castrats qui chantaient pour tenir les voix aiguës. Mais c'est vrai que ça a fasciné immédiatement le public, et ce sont devenus vraiment des superstars, en fait, très payés, assez capricieux, paraît-il, etc. Et là, on entend donc un air typique de ce qui pouvait leur être destiné, c'est-à-dire des airs avec des vocalises, des choses très, très brillantes qui utilisent aussi justement ces différences de registres. On l'a très notamment par exemple dans les œuvres de Vivaldi, où vous avez des écarts énormes, hein, on passe du registre très grave et très vite au registre aigu. Donc l'intérêt est vraiment mis dans la performance vocale, et le texte là, bon, il dit famille combattere, faites-moi combattre, on l'entend au moins une douzaine de fois si ce n'est pas 20. Et donc, c'est le texte n'a pas forcément d'intérêt, c'est l'affect global de l'air qui a un intérêt, mais c'est surtout la performance vocale.
Musique baroque, musique populaire, voire musique pop, peut-être, on pourrait dire, de son époque.
Hein. Oui, oui, c'est en fait, dès que la musique a été comme ça ouverte au grand public, j'allais dire, oui, c'est le grand public finalement, ben, elle a été obligée un petit peu de se populariser, donc de venir aussi dans une certaine manière plus simple, peut-être, d'un point de vue esthétique et parfois, malheureusement, d'un point de vue musical. Mais voilà, l'intérêt s'est concentré sur autre chose. Mais il y a aussi un autre rapport entre la musique baroque et la musique populaire, c'est que dans certains de ces aspects techniques, la musique baroque a emprunté des choses à la musique populaire aussi.
On y reviendra sans doute dans une de nos prochaines chroniques. C'était Les Clés du Baroque avec Jean-Marc Heim. Merci Jean-Marc.
Merci.
Jean-Baptiste à la réalisation et Stéphane au micro. C'est pendant toute la durée du festival Mars en Baroque 2014 à 11h sur les 3-8.
Reprenez en marquant les premiers temps.
Mars en Baroque résonne sur les ondes de Radio Grenouille. Pendant toute la durée du festival, programmation musicale, playlist choisie et commentée par des artistes du festival le dimanche à midi. À partir du jeudi 13 mars, tous les jours à 11h, conversation avec Jean-Marc M, directeur de Concerto Soave, pour saisir quelques clés du baroque. Mars en baroque sur Radio Grenouille, un programme à retrouver sur le www.radiogrenouille.com.
Vous reprenez au début.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.